de Cegid sur cegid.com. Cegid, ouvrir les possibles.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Et vous écoutez Radio Classique, vous avez bien raison. Bonne journée, bon réveil. Il est 8h.
7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et le journal de 8h, c'est avec Virginie Fulpin.
La France réplique à l'Algérie. 12 fonctionnaires français sont expulsés d'Algérie. La France rappelle son ambassadeur et renvoie 12 agents algériens. Qui attaque les prisons françaises? Le parquet antiterroriste enquête après les attaques coordonnées contre 9 prisons depuis dimanche. Et puis Donald Trump contre Harvard. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président multiplie les attaques contre les universités américaines.
À suivre, l'exercice de pédagogie de François Bayrou dans l'édito politique de Guillaume Tabar. Enfin, derrière la bataille des droits de douane se cache une guerre des monnaies, nous racontera Christian de Boisseux, vice-président du Cercle des économistes. Il sort sa calculatrice à 8h15. À la une, Virginie, la France choisit de rendre coup pour coup à l'Algérie.
La riposte en miroir, l'Algérie expulse 12 fonctionnaires français de son territoire. La France rappelle son ambassadeur et renvoie 12 agents algériens. La crise diplomatique rebondit entre les deux pays et ses tensions inquiètent des deux côtés de la Méditerranée. On va l'entendre dans la voix de Yasmina Kadra, sa parole est rare, mais l'écrivain algérien est l'un des auteurs francophones les plus lus au monde.
Je crois qu'on est dans une sorte de dialogue de sourds, dans cette spirale qui ne profite à personne, ni à la France, ni à l'Algérie. Hein. On est tous les deux perdants, sur toute la ligne. Et je trouve que c'est surtout le gouvernement français, certains ministres qui sont derrière tout ça. Ce sont des gens qui ont prouvé leur incompétence et qui, au lieu de trouver des solutions pour les Français, ils leur proposent un coupable. Et le coupable désigné, c'est l'Algérie. Il faut qu'il y ait une discipline d'abord dans le gouvernement français. Comment expliquer que d'un côté, le président de la République, Macron, essaye d'arranger les choses et de l'autre, il y a un ministre de l'Intérieur qui fout tout en l'air. Il y a une insubordination caractérisée au sein même du gouvernement. Je crois que le président Macron n'a plus autorité sur son gouvernement, c'est tout. Et ça, c'est très dangereux. Je trouve que l'Algérie aussi, elle réagit très très mal. Normalement, l'Algérie aussi ne doit pas tomber dans le piège de la provocation. Il faut prendre une certaine hauteur. Et il est impératif pour nous de revenir à la raison. Tout ce conflit ne mène à rien. Je trouve qu'on est en train de perdre beaucoup de temps. La France et l'Algérie se doivent de se réconcilier le plus tôt possible, ne serait-ce que par respect pour les deux peuples, nos deux peuples.
Yasmina Kadra au micro de Lauriane Toulmont. Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, estime ce matin qu'il nous faudra un jour revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant avec l'Algérie. Qui cible les prisons françaises? Des voitures incendiées, des tirs de Kalachnikov, des tags mystérieux, 9 prisons attaquées depuis dimanche. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, assure que la République ne cédera pas à ces intimidations. Mais pour Christine Nicolas, le secrétaire général du syndicat pénitentiaire des surveillants, ces attaques étaient prévisibles. Le climat a changé depuis un an et l'évasion sanglante de Mohamed Amra au péage d'Incarville.
Effectivement, on le redoutait. Ce qu'on a vécu l'année dernière, le drame d'Incarville, a été un énorme traumatisme pour nous par rapport à Amra. Il est clair qu'il y a un avant et il y a un après. Les pressions exercées sur les établissements, sur les personnels, sont beaucoup plus conséquentes. Des bandits, des narcotrafiquants qui ont des moyens conséquents, ils sont sans foi ni loi. D'être ciblés comme ça et qu'il y ait des actions sur plusieurs établissements en 24-48 heures, c'est du jamais vu dans l'histoire pénitentiaire. Nous, on demande un recrutement en nombre pour permettre de pouvoir resécuriser les détentions, les établissements.
Des propos recueillis par Charles Ducrot. De nouvelles attaques ont eu lieu cette nuit et ce matin. 3 voitures incendiées devant la prison de Tarascon. Et puis BFM annonce également qu'un incendie a été déclenché dans le hall d'un immeuble habité par un surveillant de prison en Seine-et-Marne cette nuit. Pierre Palmade va être libéré ce matin. L'humoriste a obtenu un aménagement de sa peine de 2 ans de prison ferme. Il va être libéré sous bracelet électronique. Un département entier sous tutelle. Le conseil départemental de Charente n'a pas réussi à voter son budget 2025. 2025. À partir d'aujourd'hui, il est donc mis sous tutelle préfectorale. La Chine ne lâche rien dans la guerre commerciale lancée par les États-Unis. Elle refuse la livraison d'avions commandés par Boeing et la Poste de Hong Kong suspend les envois de colis vers les États-Unis. Ce qui augmente aussi vite que les droits de douane aux États-Unis, ce sont les menaces de Donald Trump contre l'université d'Harvard. Le président américain veut lui retirer ses avantages fiscaux après avoir coupé ses subventions fédérales. Donald Trump s'est engagé dans une guerre contre les universités américaines, Lucie Dupressoir.
L'argument officiel de Donald Trump, c'est la lutte contre l'antisémitisme qui gangrènerait les universités depuis le 7 octobre. Romain Huré, historien des États-Unis à l'École des hautes études en sciences sociales.
L'an dernier, beaucoup d'universités ont été occupées et Trump, ses conseillers, y ont vu un nouveau stade dans l'évolution très inquiétante des universités porteurs d'une idéologie qu'ils appellent le wokisme. Et cette idéologie serait contraire aux valeurs états-uniennes.
Et l'administration cherche à imposer une idéologie conservatrice à la gloire des États-Unis.
Ils veulent des savoirs plus positifs et qui défendent le pays et pas une histoire violente contre les Amérindiens, contre les Afro-Américains. Il y a un combat culturel et les conservateurs espèrent bien le gagner, soit en diminuant le pouvoir de ces immenses universités du pays, soit en créant des nouvelles universités qui pourraient former autrement les jeunes esprits dans les décennies à venir.
Au risque de faire courir les universités à leur perte, prévient Alexis Pichard, docteur en civilisation américaine.
L'Amérique ne va pas retrouver sa grandeur. Mais elle va s'engager sur le chemin de la décadence. La décadence intellectuelle, la décadence universitaire, la décadence morale et la perte de prestige qui enveloppait les États-Unis.
Avec le danger aussi de détourner les donateurs conservateurs des universités qu'ils financent très largement.
Et puis mieux lutter contre les futures pandémies, l'Organisation mondiale de la santé est arrivée à un consensus après 3 ans de négociations. Les pays membres de l'OMS ont signé un texte historique.
Et c'était le journal de 8h de Virginie Fulpin. Nous sommes mercredi, jour de sortie des films, la recommandation du Monsieur Cinéma de Radio Classique, Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel.
Bonjour Marc.
Quelle est votre recommandation cinématographique ce matin, en ce mercredi ?
Lettre sicilienne, un film italien, un cinéma qui se fait assez rare malheureusement, donc réalisé par un couple de réalisateurs, Fabio Grassadonia et Antonio Piazza. C'est un film qui nous ramène en fait au grand moment du cinéma politique italien, puisque il est inspiré par un fait divers authentique, à savoir la longue cavale d'un des chefs de la Cosa Nostra, qui avait été retrouvé en 2023 par la police italienne dans une clinique privée où il recevait des soins. Dans Lettre sicilienne, c'est ce fait divers, mais un peu plus complexe, puisque nous sommes face à un homme politique italien, fraîchement sorti de prison, qui est chargé par les services secrets de mettre la main sur un des grands chefs mafieux dont il connaissait très bien le père, et il accepte cette mission pour une raison très très personnelle et très terre à terre, c'est qu'en échange de ses renseignements, il obtiendra une licence pour construire un hôtel de luxe. Autant vous dire, Marc, nous nous retrouvons dans la corruption en Italie, la plus pure et la plus classique.
Et c'est tenu ce film aussi par son personnage principal, un acteur italien emblématique actuellement.
Absolument. L'acteur qui joue l'homme politique italien, c'est Tony Servillo. C'est le grand acteur italien aujourd'hui. C'est l'acteur fétiche de Paolo Sorrentino. Donc c'est véritablement un des visages identifiables du cinéma italien.
Et donc un film réussi à l'arrivée.
On ne peut plus réussi, qui nous ramène véritablement au grand classique du cinéma politique italien. Je pense à Main basse sur la ville de Francesco Rosi sur les scandales immobiliers. Je pense à Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d'Elio Petri, avec Jeanne Maria Volonté. C'est un petit peu le retour de cinéma et ça fait du bien.
Lettre sicilienne de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza. Votre recommandation ce matin, mon cher Samuel Blumenfeld. Bonne journée.
Bonne journée, Marc.
Et dans un instant, après le diagnostic, quel sera le remède de François Bayrou sur le budget 2026 ? L'édito de Guillaume Tabar. Dans un instant, 8h08 sur Radio Classique.
Après 50 ans de mariage, ma femme, c'était mon repère. Autant vous dire qu'à son décès, j'étais déboussolé. Je ne savais pas vers qui me tourner. Alors j'ai appelé le 3012 Urgence Décès. Un conseiller PFG m'a orienté, puis il s'est occupé de tout.
En cas de décès, appelez gratuitement le 3012. Une équipe Urgence Décès PFG vous répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour une prise en charge partout en France. Urgence Décès 3012, un service PFG.
Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal. Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence ? et qu'elle est à partir de 170 euros par mois et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offerte, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500 euros pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril si acceptation crédit part. Garantie à l'URCAIR, conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donations, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com.
Le plus grand événement des solutions pour la planète arrive à Paris. Change Now transforme le Grand Palais en exposition universelle des solutions durables. 3 jours de conférences, de rencontres inspirantes et 1000 innovations à découvrir. Le samedi, Job Fair, atelier famille, fresques et art pour tous. Entrez dans un monde durable à Change Now du 24 au 26 avril. Informations et réservations sur changenow.world.
À 28 ans, Alexis voulait acheter son premier appartement. Mais il lui manquait un apport pour son crédit. Quant à ses parents, il n'avait pas assez pour l'aider. Alors au cabinet Bougardier, nous leur avons proposé un prêt hypothécaire garanti sur leur résidence principale. Les parents ont ainsi libéré de la trésorerie pour l'apport d'Alexis et leur fils est maintenant propriétaire. Comme pour Alexis, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
Vous en avez assez de dire non à votre enfant ? J'ai la solution. Dites-lui oui. Oui à tout. Oui, mon amour. Tu peux choisir l'atelier peinture, dessin ou éveil musical. Oui, vas-y. Fais de la mosaïque, de l'aquarelle ou même du modelage. Oui. Et oui, pendant les vacances, c'est l'opération Vive les couleurs chez Cultura. Avec 20 000 ateliers gratuits pour éveiller vos enfants à l'art et à la culture. Inscrivez-vous dès maintenant sur cultura.com. Offre réservée aux membres Culture Addict, voire conditions en magasin et sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.
Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar sur Radio Classique.
Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit.
Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau poltronnet sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition.
Ah là, on entend quel est confort. Poltronnet sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Et à 8h12 minutes sur Radio Classique, l'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marc.
La vérité permet d'agir. C'était l'intitulé de la conférence de presse de François Bayrou hier sur les finances publiques. Que faut-il retenir de cet exercice, Guillaume ?
Bah écoutez, il faut d'abord retenir un constat. Hein. La France a atteint un niveau de déficit et d'endettement insupportable, a-t-il dit, auquel il faut désormais s'attaquer. D'où ces formules très fermes de François Bayrou sur la survie de notre pays qui est en jeu, sur la nécessité d'une confrontation les yeux ouverts avec la situation, et d'où ce mot de vérité hein, qui est revenu comme un leitmotiv. Alors, on peut faire remarquer que dire, ça n'est pas faire, et qu'établir un diagnostic, ça n'est pas apporter des solutions. Mais à l'inverse, on peut quand même reconnaître que la lucidité, c'est quand même mieux que le déni, et que la clarté sur la situation est préférable à l'habileté visant à la contourner. Donc, de ce point de vue, on peut dire quand même que l'exercice du Premier ministre était une première étape.
Mais s'est-il contenté de faire un constat de la situation dégradée des finances publiques ?
Non, il a quand même été plus loin. Il est passé du constat au diagnostic, en soulignant que ce dont la France souffrait, c'était d'une insuffisance d'activité, et que donc, on ne s'en sortirait pas sans travailler plus. Ça peut sembler une évidence, mais oser dire ça, ça n'est déjà pas totalement consensuel. Ensuite, s'il n'est pas encore entré dans les propositions concrètes pour redresser les finances publiques, il a au moins fixé 2 bornes. Pas question de s'endetter plus encore et surtout, pas question d'augmenter les prélèvements obligatoires. 2 solutions de facilité, a-t-il dit. Et mine de rien, c'est quand même courageux de dire cela, car tous les gouvernements, y compris ceux d'Emmanuel Macron, ont laissé allègrement filer la dette depuis des décennies. Et c'est courageux de le dire, alors que la gauche réclame encore et toujours d'utiliser le levier fiscal et que, si cette gauche n'est pas au gouvernement, eh bien, c'est quand même elle qui a pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement actuel via l'arme de la censure. Donc, autant dire que François Bayrou va s'atteler à un budget dont les mesures recèleront un risque de censure.
Donc pas d'endettement, pas d'impôts, mais 40 milliards à trouver pour boucler ce budget 2026. Bayrou a-t-il dévoilé sa thérapie ?
Eh bien non. Oui. Hein. Et la solution, et on le sait évidemment, ce sont des économies. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a promis qu'elles seraient réparties équitablement entre l'État, le social et les collectivités locales. Mais on n'en sait pas plus. On sait juste qu'en termes de calendrier, le Premier ministre veut que toutes les pistes soient sur la table avant le 14 juillet. Mais pour le reste, hein, il veut commencer par faire de la pédagogie. Alors très bien, hein, mais la pédagogie, c'est une méthode, ça n'est pas une thérapie. Et puis on peut faire hein, toute la pédagogie que l'on veut. On peut prévenir en amont qu'il faudra faire des efforts. On peut tenter de faire partager un diagnostic. Bah, il arrive quand même bien un moment où il faut bien présenter l'addition elle-même. Et quand on doit trouver au moins 40 ou 50 milliards d'euros, on peut faire tous les efforts de présentation que l'on veut. Ça n'est pas ça qui rendra les solutions populaires. Alors on peut dire que hier, Bayrou a tenu un discours de vérité. Il lui reste quand même maintenant à passer à l'épreuve de vérité, avec deux écueils qui, pour parler comme lui, sont des Himalayas, une assemblée hostile et une opinion rétive.
L'édito politique de Guillaume Tabar, comme chaque matin. Merci Guillaume. Et à demain, 8h15 sur Radio Classique. Tout de suite, l'invité de la matinale. Bonjour Christian de Voissieu.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, et vous publiez avec votre confrère Marc Schwartz « La nouvelle guerre des monnaies » parue aux éditions Odile Jacob. Avant d'explorer cette bataille de devises qui se joue actuellement dans le monde, un mot sur la prise de parole de François Bayrou dont parlait Guillaume Tabar à l'instant. On a le diagnostic, on se dirige vers un remède de cheval, c'est inévitable.
Ben, ça va pas être facile. Alors moi j'aime bien la pédagogie, je suis prof, donc je ne vais pas être contre, loin de là, mais les 40 milliards d'économies, j'attends de voir comment on les trouve, d'autant plus que la croissance reste quand même très incertaine, alors le gouvernement a revu à la baisse sa prévision de croissance pour cette année, on est à plus 0,7%, on venait de plus 0,9%, mais je veux dire, compte tenu de l'incertitude créée par le président américain, les réponses aux réponses, les réactions aux réactions. Principal aléa à la croissance, parce que ça conditionne les rentrées fiscales, TVA, impôts sur les sociétés, etc. Et puis sur les dépenses, puisqu'il s'agit de ça, on est quand même dans un contexte où les charges d'intérêt vont continuer à augmenter, avec l'augmentation de la dette. On fait une rallonge sur les dépenses militaires par rapport à la loi de programmation. Il faut financer quand même un peu les dépenses de transition énergétique, écologique. On n'en parle plus d'ailleurs. Hein, on a l'impression qu'un sujet recouvre l'autre aujourd'hui. Et donc, il y a quand même cette addition à financer du côté énergétique, écologique, financer l'éducation, la santé. Donc, moi j'attends avec beaucoup d'impatience et d'intérêt comment ça va se répartir les 40 milliards entre les trois étages de la fusée, État, collectivité locale et sécurité sociale. Ça veut quand même dire, à mon avis, le message que j'ai compris hier, c'est que je pense que le Premier ministre a raison, on ne revient pas sur le principe des 64 ans sur la réforme des retraites. Il n'a pas dit comme ça, mais je veux dire, quand il dit produire plus sur le cycle de vie, augmenter le taux d'emploi des jeunes et des seniors, c'est génial, mais comment on fait ?
Comment on fait, c'est ça, j'allais vous poser la question.
Là, on est tous d'accord sur le fait que la France n'est pas très bonne et même mauvaise sur le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors, mais comment on s'y prend ? Améliorer la productivité, comment on fait ? Ça passe par l'innovation, la recherche et développement. Bon, moi j'attends du concret maintenant.
Et on n'y est pas en termes d'innovation pour l'instant ?
Bah non, j'ai pas vu tellement de ruptures pour l'instant. Les innovations de rupture, elles sont plutôt faites aux États-Unis pour l'instant que chez nous.
Et la transition est toute trouvée, Christian de Boissieu, puisqu'on va parler des États-Unis à présent. Et le Premier ministre en parlait hier, de ce tremblement de terre, des droits de douane américains, les ordres et les contre-ordres, les annonces arbitraires, puis des sursis. À quoi joue exactement Donald Trump, le président américain aujourd'hui ?
Je sais pas, il est dans le rapport de force permanent. Il joue à ça. Je pense que derrière tout ça, il y a quand même de l'idéologie, c'est-à-dire que quand je regarde les travaux des économistes qui l'inspirent, je pense à Stéphane Miran, qui est son principal conseiller économique, il y a quand même tout un plan derrière. On a l'impression que tout ça est erratique, mais il y a un plan, parce que Stéphane Miran, lui, depuis l'année dernière, il dit au fond, tout ça, c'est de la faute de... du reste du monde, de nous, quoi. Mmh. Surtout pas des États-Unis, dit-il. Les Américains sont jamais responsables de leur déficit commercial, à les entendre. Bon, c'est nous, et on a une soif de dollars, ça fait monter le dollar, disent-ils. Et donc la surévaluation de la monnaie américaine provoquerait, serait responsable du déficit commercial. C'est la séquence que je conteste, mais qui est derrière ce programme. Donc, derrière les allers-retours, les mouvements erratiques, on a quand même l'impression, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de Trump, qu'il y a, il y a quand même un plan.
Et pourquoi il a laissé 90 jours de sursis à des dizaines d'États, excepté la Chine ?
Parce qu'il s'est rendu compte. Il a eu peur. La semaine dernière, il y a eu un événement quand même très important pour lui et pour les Américains. C'est que le reste du monde commençait à vendre les titres en dollars qu'ils avaient achetés. C'est-à-dire les Japonais, les Chinois, les Européens, le Golfe, vendaient des bons du Trésor américain, vendaient des obligations du Trésor américain. Ça fait monter les taux d'intérêt aux États-Unis, premier inconvénient du côté américain. Et puis ça fait un peu baisser le dollar aussi. Alors ça, c'est pas un inconvénient pour les Américains, puisque Trump, il veut faire baisser le dollar.
C'est ce qu'il cherche, oui.
Mais c'est tout ça est assez peu cohérent, parce que je veux dire, si véritablement ils réussissent à faire baisser le dollar, d'abord c'est pas bon pour nous, ça veut dire faire monter l'euro, c'est pas bon pour notre compétitivité dans la zone euro. Et deuxièmement, il peut y avoir un moment où le reste du monde, qui finance quand même le déficit commercial américain par des entrées de capitaux, le reste du monde peut perdre confiance dans la devise américaine. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais je veux dire, à force de jouer cette dynamique, je trouve qu'il joue un peu avec le feu.
Avec des signaux qui peuvent être inquiétants. Derrière tout cela, il y a aussi cette bataille entre le dollar en face et le yuan aussi de l'autre côté. C'est l'un des objets de ce bras de fer entre les États-Unis et la Chine.
Si vous voulez, ce qu'on appelle la dédollarisation.
Oui, voilà.
C'est-à-dire la réduction du rôle du dollar dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, que vous regardez les chiffres, la dédollarisation, c'est plus une velléité politique de la part des pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, qu'une véritable réalité économique. C'est-à-dire, le dollar reste la monnaie de réserve dominante et de loin. Numéro 2, c'est l'euro. Et puis ensuite, il y a le yuan chinois, mais je veux dire, qui a des parts de marché relativement modiques parce qu'il n'est pas pleinement convertible. Mmh. Donc, les Chinois freinent quand même, d'une certaine façon, l'internationalisation de leur devise. Bon, mais dans 10 ans, je serai peut-être pas là, sans doute pas là pour le voir, mais dans 10 ans, je suis persuadé que le monde sera organisé autour de 3 devises, le dollar, l'euro qui restera, malgré les difficultés qu'on peut traverser en Europe, et le yuan chinois. Aujourd'hui, la finance mondiale s'organise autour de 2 devises, ce que j'appelle un duopole, dollar-euro, avec un dollar qui reste dominant. Donc, la dédollarisation, c'est plus une perspective que la réalité d'aujourd'hui, mais Trump aurait tort de ne pas prendre ça au sérieux. Et il ne faut pas jouer avec les taux de change, parce que ça peut avoir des conséquences aussi sur le rôle du dollar.
Ça abîme une image. C'est une guerre d'influence.
La monnaie, c'est la confiance. Et la confiance, ça peut se perdre assez vite. Plus vite que ça ne se gagne.
Xi Jinping, par exemple, en ce moment, le président chinois est en tournée en Asie du Sud-Est, accueilli parfois en fanfare. On l'a vu en Malaisie, au Vietnam, le président chinois. Mais il fait du soft power aussi. C'est un peu l'objet de ces déplacements.
Vous avez ce qu'on appelle le Sud global, concept un peu ambigu, mais on voit bien ce que ça recouvre. Vous avez les BRICS, dont la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, et puis ça s'est élargi à d'autres pays. Je pense que le Sud est en train de s'organiser, et c'est comme ça que j'interprète cette visite du président chinois dans des pays du voisinage pour lui. Solidarité aussi vis-à-vis des initiatives unilatérales américaines. Dans ce bras de fer entre la Chine et les États-Unis, clairement, les Chinois cherchent des alliés près de chez eux. Et vous avez vu qu'il y avait un projet, c'est un projet de zone de libre-échange entre la Corée du Sud, le Japon,
la Chine. Le Japon aussi, oui.
Voilà, bon, tout ça, c'est des projets, c'est pas la réalité encore, mais il y a clairement une volonté de s'organiser face aux initiatives de M. Trump.
Alors, je le disais, c'est pas seulement cette guerre en ce moment, c'est pas seulement une guerre de marchandises, une affaire de containers, c'est une affaire de devises. C'est l'objet de votre livre, La guerre des monnaies, paru aux éditions Odile Jacob. Vous expliquez qu'il y a en vérité 3 types de guerres.
Oui, il y a 3 guerres des monnaies À mon avis, elles ont lieu en ce moment toutes les trois. Il y a la guerre d'échange, c'est-à-dire chaque pays essaye de faire baisser sa devise pour améliorer sa compétitivité. Les Chinois le font depuis des années, les Américains reprochent aux Chinois de le faire, mais M. Trump veut faire baisser le dollar. Donc, il est clairement dans cette logique de guerre d'échange. Il y a la guerre entre les monnaies de réserve, avec, au fond, la volonté de prendre le relais du dollar, mais ça prendra des années ou des décennies. C'est la guerre des monnaies de réserve. Je parlais du yuan, qui a un avenir, à mon avis, devant lui. Le dollar reste dominant et l'euro fait à peu près 20% de part de marché au plan mondial. Le dollar, pas loin de 60%. Vous voyez, je parle de part de marché, pas de taux de change. Et puis, la troisième, c'est la guerre entre des monnaies privées, les cryptos. Le principal crypto, c'est le bitcoin. Et puis, les monnaies publiques. C'est-à-dire que les banques centrales ont réagi face à l'essor des cryptos en développant, elles sont en train de préparer leur monnaie numérique. La Banque Centrale Européenne prépare l'arrivée de l'euro numérique. La Fed est censée préparer l'arrivée du dollar numérique, même si M. Trump a pris plutôt position contre cette initiative, etc. Donc, vous avez des gains entre monnaie privée, monnaie publique, avec des enjeux de quoi ? Des enjeux de pouvoir, des enjeux de souveraineté monétaire, des enjeux de contrôle. C'est ça qui se joue.
Christian de Boissieu, vous développez aussi longuement l'histoire de l'or. Je voudrais qu'on termine par ça, il nous reste quelques minutes. L'once bat des records. Cette nuit, j'ai regardé 3 275 $ l'once, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui pousse à se replier sur une valeur qui n'apporte finalement aucun rendement ?
L'or, effectivement, a été démonétisé du système monétaire international par M. Nixon le 15 août 1971. Mais il reste important, c'est-à-dire les banques centrales achètent de l'or parce que ça reste une valeur refuge, y compris pour les banques centrales. Bon, et puis, il n'y a pas que les banques centrales, il y a les investisseurs privés, l'or sert de valeur refuge, et en période d'inflation, l'inflation a baissé, mais elle peut repartir avec l'initiative américaine, l'or est une bonne protection contre l'inflation. Donc voilà les raisons pour lesquelles, sur ce marché relativement étroit, le gonflement de la demande provoque une augmentation du prix.
Et les particuliers aussi
Les privés,
il
y a l'usage privé de l'or, la dentisterie, la joaillerie, etc., mais vous avez les particuliers, le bitcoin est un peu retombé par rapport à ses sommets du mois de décembre, mais clairement, l'or aujourd'hui est une des valeurs refuges.
Merci beaucoup Christian de Boissieu d'être venu ce matin sur Radio Classique, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Vous publiez donc « La nouvelle guerre des monnaies » coécrit avec votre confrère Marc Schwartz, c'est paru aux éditions Odile Jacob. Excellente journée à vous.
Merci.
Et à très bientôt, 8h26 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre avec nous ce matin, la journaliste et éditorialiste Routel Krief et l'académicien Marc Lambron. Ce sera juste après la revue de presse d'Augustin Lefebvre. A tout de suite.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous trouvez que le temps passe vite ? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Pensez à covoiturer.
Mano Mano. Regardez son jardin en friche. Allez sur Mano Mano, cherchez une tondeuse, trouvez la Makita sans fil à seulement 135 euros. Se faire livrer rapidement, passer son samedi au grand air. Vous savez tout, en avril, les prix bas jardin sont chez Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano. Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu deux paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès vendredi et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur Drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valable du 22 avril au 4 mai. Modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Cabinet Arc présente des histoires presque drôles.
Notre logiciel comptabilité a bugué, vous comprenez, et plus particulièrement la partie facture à régler. Toutes les données ont été effacées. Il faudra sans doute plusieurs mois pour retrouver trace du règlement de la facture. J'en suis désolé pour vous.
Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2024, le cabinet Arc a réalisé 1,2 milliard d'euros de cash additionnel. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet Arc, votre argent n'a pas de temps à perdre. Cabinet-arc.com et au 01 46 03 07 07. 01 46 03 07 07.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA. Brian était aux USA. Where is Jenny?
Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Ah ben, tous les coups, elle est aux États-Unis. Et Brian!
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr, gratuit sans obligation d'achat. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Marc Bourreau.
Et Charles Bonner pour le rappel des titres à 8h30.
De nouvelles attaques cette nuit. 3 voitures incendiées devant la prison de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Le parquet national antiterroriste se saisit après une série d'attaques, tags, incendies, même tirs de Kalachnikov à Toulon. Dans plusieurs cas, une inscription est retrouvée. DDPF pour droit des prisonniers français. Un canal sur Telegram recense les attaques avec des vidéos. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, pointe la responsabilité du narcotrafic. L'ambassadeur de France à Alger rappelé et 12 agents consulaire algérien expulsé. C'est la riposte après une mesure similaire de l'Algérie. La reprise du dialogue entre président Formars n'a pas été suivie d'effet. Les filles de Boualem Sansal écrivent une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander de ne pas oublier le sort de cet écrivain binational emprisonné en Algérie. Et puis la Ligue de football professionnel veut rompre avec son diffuseur DAZN dès la fin de la saison. Les deux parties sont liées jusqu'en 2029, mais en conflit sur le paiement des droits. DAZN refuse la proposition de la LFP.
8h31 sur Radio Classique, on ouvre tout de suite le kiosque. Avec vous, Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Ce matin, les journaux reviennent sur la lutte qui oppose Donald Trump à l'université d'Harvard.
Et le président américain a menacé hier de lui retirer ses importants avantages fiscaux. Annonce qui complète celle de la suppression de plus de 2 milliards de dollars de subventions. Car Harvard a refusé de plier face aux demandes de la nouvelle administration. Des demandes résumées dans le Figaro. Réforme en profondeur de la direction de l'université, audit du corps professoral, du personnel et des étudiants par une commission extérieure pour assurer la diversité des points de vue, promesse de refuser l'admission de candidats étrangers hostiles aux valeurs américaines et à la Constitution, enfin réforme des programmes présentant des cas flagrants d'antisémitisme ou d'autres préjugés, bref, une mise sous tutelle qui ne dit pas son nom. L'opinion synthétise, si l'administration Trump mène une telle croisade contre les grandes universités, c'est parce qu'elle y observe ce qu'elle considère des dérives depuis une dizaine d'années. De symboles d'excellence, elles sont devenues à ses yeux des lieux de pensée uniques où l'on enseigne exclusivement des théories sur le genre et des discours anticolonialistes jugés anti-américains et anti-occidentaux. Des facultés vues comme des usines qui fabriquent à la chaîne des ennemis démocrates. Le Figaro rappelle que l'université d'Harvard a un budget qui dépasse le PIB d'un petit pays. Certes, les subventions ne pèsent que 11% de son budget et sa fondation est riche de 50 milliards de dollars, nuance les échos, mais cet argent n'est pas très liquide. Le président d'Harvard n'a donc pas autant de latitude qu'il y paraît.
Ce président avait pourtant tenté de montrer patte blanche, Augustin.
Oui, c'est ce qu'écrivent toujours les échos. Alan Garber, 70 ans, nommé après la démission de Claudine Gay, qui n'avait pas été assez ferme face au dérapage antisémite sur le campus après le 7 octobre 2023. Élevé dans une famille juive, le dirigeant a peu d'affinité avec les manifestants en kéfier qui ont alors campé sur la pelouse d'Harvard. Il a mis en œuvre une nouvelle politique de neutralité alors que jusqu'ici l'université prenait des positions politiques et il a renoncé à la discrimination positive. Sans réussir donc toutefois à faire plier Donald Trump.
La situation peut donc évoluer dans les prochains jours, mais Harvard est d'ores et déjà devenu un symbole.
Finalement, ce n'est ni le Parlement, ni la justice, ni la presse. Le premier contre-pouvoir qui défie frontalement Donald Trump est une université, écrit Jean-Marc Vittori dans son éditorial des Échos. Suite dans l'article en page 7. Qu'il le veuille ou non, le président du prestigieux établissement devient l'emblème de la résistance à la révolution culturelle trumpiste au moment où de nombreuses institutions préfèrent pactiser plutôt que de se voir couper les vivres, médias, universités, cabinets d'avocats. Le Parisien aujourd'hui en France rappelle que tout le monde, ou presque, avait jusque-là cédé jusqu'à l'université de Columbia à New York, qui pour sauver 400 millions de dollars de financement a accepté la mise sous tutelle académique du département des études du Moyen-Orient. Un exemple qui montre qu'accepter les demandes de l'administration ne suffit pas pour acheter la paix. Les 400 millions n'ont toujours pas été versés et le gouvernement réfléchirait à imposer à Columbia une surveillance générale. À Harvard, cela pourrait se terminer par une décision de justice.
La justice que Trump contourne dans les affaires de délinquance en col blanc.
Long article dans l'Opinion, traduit du Wall Street Journal. Il décrit comment la nouvelle administration abandonne les poursuites contre certains responsables d'entreprises accusés de corruption ou d'escroquerie. C'est poursuite nuirait à la compétitivité des entreprises américaines. Quelques principes se dégagent dans la décision ou non d'intenter un procès. Il n'est plus question de poursuivre ceux qui ont commis des actes répréhensibles s'il n'y a pas de victime évidente. Le département de justice se dit ouvert aux arguments d'un défendeur s'il se dit ciblé pour des raisons politiques. Enfin, le fait de disposer de connexions au sein du monde de Trump semble avoir de l'importance. Tiens. Suit une liste qui prend presque une page entière, avec par exemple le fondateur du constructeur automobile Nicolas, reconnu coupable d'escroquerie, gracié par Donald Trump. Le secteur des crypto-monnaies est lui aussi particulièrement concerné. Bref, aujourd'hui, aux États-Unis, il vaut mieux être un escroc qu'un professeur d'université.
Augustin, cette nouvelle Amérique que vous venez de décrire semble rebuter les touristes français.
Oui, le Parisien a interrogé des professionnels du secteur qui donnent des indicateurs sur ce phénomène. Baisse à deux chiffres des réservations chez les tours opérateurs, jusqu'à 25% pour certaines destinations et certains secteurs. Tous les secteurs sont touchés, que ce soit les jeunes, les groupes, le moyen ou le haut de gamme. Au-delà du rejet idéologique, d'autres facteurs entrent en jeu, comme l'inflation marquée qui touche le pays, l'instabilité économique et commerciale croissante. Ce climat global contribue à rendre la destination moins attractive. Les compagnies aériennes ont pourtant baissé les prix des vols qui avaient beaucoup augmenté après la crise sanitaire, sans convaincre les Français de traverser l'Atlantique. Un quart de demande en moins pour New York ou Los Angeles, parmi les villes les plus populaires du pays.
Vous nous proposez une autre destination de vacances pour terminer.
Oui. Pas loin des côtes canadiennes et toujours de l'autre côté de l'Atlantique, Saint-Pierre et Miquelon. Le petit archipel français a décidé de réagir après deux séquences négatives pour son image. Les droits de douane sur ses importations fixés à 50% par Donald Trump avant qu'il ne change d'avis et la proposition controversée de Laurent Wauquiez en campagne pour la présidence des Républicains d'y expédier les OQTF, les étrangers ayant une obligation de quitter le territoire français. La collectivité a lancé hier une campagne de communication relayée par plusieurs médias dont Ouest France. Un constat lyrique pour vanter un rythme de vie apaisé. Envoyer quelqu'un ici pour le punir, c'est comme exiler un peintre dans la lumière, un poète dans le silence, un amoureux dans la beauté. Un slogan, Saint-Pierre et Miquelon, 146 jours de pluie, 365 jours de bonheur, et un acronyme détourné, OQTF devient « on quitte tout facilement », on vient en quête de tranquillité familiale ou encore ouvrier qualifié pour travailler dans le froid ou comment retourner le stigmate avec humour et ironie. Et c'est là-dessus que s'achève mon observation quotidienne des titres français.
On quitte tout facilement, on vient en quête de tranquillité familiale. Voilà quelques slogans inspirants pour cette revue de presse. Merci beaucoup Augustin Lefebvre. Comme tous les matins pour la revue de presse, on vous retrouve demain à 8h37 dans un instant Esprit Libre, l'éditorialiste Routel Krief et l'académicien Marc Lambron. À tout de suite.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Chaque jour dans la matinale de Radio Classique, retrouvez comment j'ai réussi à 6h15 avec Natran. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous trouvez que le temps passe vite ? Nous aussi. Alors chez Mazda, nous vous offrons jusqu'à 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance sur nos berlines SUV compact 9 Mazda 3 et CX-30. Et pour toujours plus de sérénité, nous garantissons tous nos modèles 6 ans. Prenez juste le temps de découvrir notre gamme chez votre concessionnaire Mazda le plus proche. Le moment est venu de rouler l'esprit tranquille. Garantie 6 ans limitée à 150 000 km. Offre valable en location longue durée à particulier jusqu'au 30 juin. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Carrefour. Quand vous me dites « j'ai prévu deux paniers pour la chasse aux œufs et je compte bien les remplir », eh bien je vous réponds que pour Pâques, il y a 8 euros offerts en bon d'achat tous les 20 euros d'achat sur tous les chocolats de Pâques, même en promotion. Et c'est dès vendredi et jusqu'à lundi dans vos hypermarchés Carrefour et leur Drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Hors tablette de chocolat limitée à 3 bons d'achat par foyer valable du 22 avril au 4 mai, modalité complète sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Retrouvez Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia.
Et si nous partions à la rencontre des Bretons ? Explorateurs, artistes, combattants, entrepreneurs. Depuis 1500 ans, leur audace, leurs engagements, mais aussi leur créativité ont conquis la France. Une histoire qui ne manque pas de sel.
Votre magazine Historia en vente chaque mois chez votre marchand de journaux.
Bonjour, c'est Ève Ruggieri. C'est un bonheur de vous retrouver pour partir ensemble vers le soleil de la Sicile. Palerme et ses palais privés, la somnambule de Bellini au Teatro Massimo et le privilège d'un dîner-concert d'exception au Palazzo Francavilla. Autant de superbes moments de musique et d'émotions partagées avec vous.
Palerme lyrique avec Ève Ruggieri, du 20 au 25 octobre. Un voyage événement avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Depuis plus de 4 siècles, Château Lagrange crée de grands vins et des millésimes remarquables. Une vocation inscrite dans le terroir de ce domaine emblématique de Saint-Julien. Au cœur du Médoc, la propriété vous accueille pour des visites privées, verticales de millésimes à l'aveugle, dégustation à la barrique et la découverte de sa table gastronomique d'exception. Entrez dans le domaine Château Lagrange, troisième grand cru classé depuis 1855. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
À ce stade de la compétition, tout peut arriver. Le parcours d'une équipe peut devenir une épopée. Une rencontre, un classique. Un joueur, une icône. Cette saison, l'histoire du football s'écrit sur les chaînes Canal+. Suivez les quarts de finale retour de l'UEFA Champions League avec Real Madrid-Arsenal ce soir à 21h sur Canal+. Et l'UEFA Europa League avec Manchester United-Lyon demain à 21h sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage, témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau.
Esprit libre à 8h41 avec nous ce matin l'éditorialiste Routel Krief et l'académicien Marc Lambron.
Bonjour,
bonjour à tous les deux.
Bonjour Marc.
Alors on va commencer évidemment par cette prise de parole du Premier ministre François Bayrou hier, le risque d'une surenchère, d'un surendettement irréversible, une France qui n'a pas assez de ressources, qui ne produit pas assez. Pas d'annonce mais un slogan, la vérité permet d'agir. Est-ce que l'exercice était réussi, Routel?
Vous savez, les journalistes ont l'habitude de se plaindre quand il n'y a pas assez de pédagogie. Et ils se plaignent tout autant lorsqu'ils considèrent que ça ne va pas assez vite. À un moment, il faut regarder les choses en face. Ce qu'a fait François Bayrou hier, c'était un exercice de pédagogie qui visait, j'ai envie de dire, à passer au-dessus des partis, des syndicats, des forces un peu de résistance au changement, oui, et à s'adresser directement à l'opinion publique. Et il a pris la méthode, vous savez, les tableaux Covid d'Edouard Philippe, très pédagogique, mais il n'a pas mâché ses mots. On a eu quand même, la France ne travaille pas assez, elle ne produit pas assez, mais aussi quelques motifs d'espoir. Nous fabriquons des avions, des satellites, des fusées, des trains, et donc nous pouvons nous relever. Moi, je crois que c'était utile, je crois que c'était intéressant, et je crois que ça n'a jamais été aussi clair. D'ailleurs, je trouve que c'est un petit tacle aussi à Emmanuel Macron, c'est une forme de critique déguisée, même s'il l'a démenti.
Oui.
Non, mais je veux dire, de façon subliminale, oui, il a dit non, c'est les 30 ans qui viennent de passer. Enfin, il y a aussi les dernières années dans lesquelles tous les témoignages concordent pour dire que le président, sur le déficit et la dette, était plus léger et a toujours parié plus sur la croissance que sur les économies. Et donc là, il y a eu une forme d'appel à l'opinion publique sur une question clé. Et moi, je trouvais que c'était plutôt réussi, oui.
Marc Lambron.
Il y a toujours un certain courage politique et beaucoup à perdre à venir sur le sujet. Je me souviens d'une conversation avec Valéry Giscard d'Estaing qui n'était pas loin d'imputer une partie de son échec en 80, un discours sur la vérité des comptes qu'avait tenu Raymond Barre 5 mois avant. Et le thème, il n'est pas forcément fréquent. Enfin, bon, Fillon avait parlé d'un État en faillite, Madame Pécresse, on cramait la caisse. Mais là, ce qui émergeait hier, c'est que c'est une parole d'État. Et au fond, s'il y avait une pédagogie de la faillite, et le côté démocratien, c'est-à-dire l'inclusion des corps intermédiaires et des citoyens dans un effort collectif. Alors, la comédie française continue, parce que à peine la chose achevée, un syndicaliste revenait sur la retraite à 62 ans, puis à 60 ans, et appelait à défiler le 1er mai. Toujours avec cette sorte d'inconséquence, je ouvre une parenthèse pour dire que va paraître un livre que j'attends avec intérêt, au Seuil, au mois de mai, de Lucie Castet, Où sont passés nos milliards? Ce qui est pas mal quand on a été soi-même à la direction financière de la ville de Paris, dont l'équilibre des comptes n'est pas forcément le plus grand apanage.
Je parlerais plutôt de tragédie française que de comédie française.
Hein. Oui, mais tragicomédie, allons-y, on fait une fusion. Non, dernière chose, c'est que c'est toujours la même chose, ça, en économie, c'est l'effet de cliquet, c'est-à-dire comment revenir sur ce qu'on appelle les avantages acquis, comme s'ils étaient là de toujours et pour toujours. Dernière chose, ce que disait, si j'ai bien entendu, M. Bayrou, c'est pas d'endettement supplémentaire et pas d'impôt supplémentaire, donc ça revenait à mettre, par élimination, la valeur travail qu'il a mise en avant. Les Français ne travaillent pas assez. Donc il y avait une certaine logique déductive et en effet pédagogique dans son propos.
Et comment s'y prendre maintenant? L'échéance, c'est le 14 juillet. Alors, le plus dur commence?
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, évidemment, c'est un discours qu'on tient quand on a une majorité, ça n'est pas le cas, et on a les réflexes immédiats qu'a décrit Marc, qu'à la peine à la sortie, tout le monde a ressorti son bréviaire habituel, et de ce côté-là, aucune surprise. Et c'est ce que j'appelle la tragédie française, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience, ou en tout cas de volonté de regarder en face la situation. Après, je trouve qu'il faut retenir la leçon de ce qui s'est passé pour Trump. Il y a à peine quelques jours, Trump a fait un changement à 360 degrés en 3 heures parce que sa dette souveraine était vendue sur le marché par les Chinois et les Japonais en quelques heures et il s'est retrouvé devant le mur de la dette et c'est ce qui l'a fait changer. Il a fait une forme de Liz Truss. Alors, a priori, on n'est pas dans ce danger-là, mais enfin, c'est une leçon quand même à méditer.
La dette souveraine est découronnée.
Donc il peut y avoir aussi une réaction, parce qu'aux États-Unis c'est une réaction de la population aussi, des consommateurs, d'inquiétude.
Oui, mais enfin, ce qui l'a fait varier, ce qui l'a fait changer, c'est essentiellement ce mur de la dette que les banquiers et ses amis banquiers lui ont fait tout d'un coup, l'ont agité et lui ont fait comprendre que les taux allaient remonter tellement violemment pour ses remboursements en 2026 peut-être, qu'il allait être vraiment en difficulté.
Ce qui l'intéresse, c'est le mur d'Harvard aussi.
Oui.
Le mur d'Harvard, mais la transition est toute trouvée.
Ah bon,
merci beaucoup. On part aux États-Unis avec ce bras de fer au sommet entre l'administration Trump et la plus vieille université du pays, Harvard. Un peu plus de 2 milliards de subventions coupées après le refus de l'université de retirer son programme de diversité, d'équité, d'inclusion. C'est une bataille très symbolique qui a lieu actuellement aux États-Unis.
Oui, alors... on peut tout de même dire qu'il arrive qu'un chef d'État s'en prenne à une institution nationale. Après tout, Macron a supprimé l'ENA pour la remplacer par l'INSP. Bon, c'est du nominalisme parce que c'est un clone, mais un INSPER, c'est difficile, alors qu'un énarque, c'était très bon pour le poujadisme. Bon, c'est une affaire aussi de prononciation. Bon, oui, vous avez raison, je crois, de dire qu'il s'agit d'une guerre culturelle interne. Et en l'espèce, Trump entend attaquer les bastions du wokisme au nom de sa base électorale qui l'exècre. Moi, ce que ça m'inspire, c'est le luxe ou la folie d'un État qui s'en prend à ses propres élites. Et à cet égard, il y a eu en Union soviétique, en 1937, des purges, notamment dans le haut état-major, qui, 5 ans plus tard, ont coûté cher, en 41. Et alors, évidemment, le grand exemple, c'est la révolution culturelle chinoise, les bonnets d'âne sur la tête des professeurs envoyés à la campagne. Autrement dit, je crois que la conclusion, c'est que la tyrannie fait toujours la guerre à l'intelligence critique. Et une dernière chose, c'est que Harvard, c'est un fleuron de réputation mondiale. Et donc, il y a une dégradation d'image, il y aura sûrement des effets collatéraux sur la recherche, il y aura des opportunités pour les universités étrangères. Donc, une fois de plus, on constate que Trump conspire à l'abaissement de son pays. Et une dernière chose, c'est que les chercheurs, les enseignants, en général, ils sont passionnés et désintéressée. Et une pire chose qu'on puisse faire, c'est leur manquer de respect, au fond, ou c'est les mépriser. C'est cela aussi qui est en jeu. Mais l'éthique du respect n'est pas dans le programme de Trump.
Alors, j'aurais quelques bémols quand même sur ce que Marc dit et sur lequel je suis tout à fait d'accord. Évidemment, vouloir imposer un contenu à une prestigieuse université ou à quelle qu'elle soit est un grave péché devant l'intelligence. Mais on a dans les universités américaines quand même des bastions du wokisme avec des fautes. Par exemple, relevées par la Cour suprême contre Harvard, dont la politique de diversité a été sanctionnée parce qu'elle favorisait toujours les mêmes. Donc, il faut regarder aussi d'où on vient. C'est-à-dire qu'on est dans l'exemple type de la tenaille identitaire. C'est-à-dire que c'est chez Harvard, comme dans les autres universités américaines, on est allé beaucoup trop loin sur le wokisme et, hélas, à certains moments, depuis le 7 octobre, sur l'antisémitisme et la place qui a été donnée à la lutte pour le Hamas, pas pour les Palestiniens, hélas. Et de l'autre côté, on a une vision totalitaire du savoir, de la connaissance et du vocabulaire. Donc c'est très 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 grave. Mais il faut arriver à trouver quelque chose il faut renouer avec une tradition, celle de la culture, de l'instruction et du savoir, et pas seulement d'être un lieu politique, d'enseignement politique, avec des enseignements politiques de part et d'autre. Hein. Donc, après, c'est vrai que Columbia, qui a accepté les règles de Trump est complètement floué. Et donc Harvard devient le symbole de la lutte contre le Trumpisme. Et c'est assez intéressant. Il faut juste observer que ce qui se passe du coup du côté démocrate, c'est plutôt Bernie Sanders et Alexandra Ocasio-Cortez qui tiennent le haut du pavé. Et c'est-à-dire qu'en face des excès incroyables et innommables de Trump, on aura aussi des excès de la gauche du Parti démocrate. C'est pas comme ça que les démocrates reviendront au pouvoir.
Mais parce qu'une des grandes victimes de l'époque, en effet, c'est la nuance. J'observe que le problème que Ruth soulève, c'est-à-dire l'excès, si on peut dire, de wokisme, il existe aussi rue Saint-Guillaume, au fond, à Sciences Po Paris. Les drapeaux palestiniens, ils sont agités. Mais le nouveau directeur procède autrement que l'administration Trump. Il y a d'autres approches possibles.
Et ça va aussi dans les types d'enseignements, sur le genre, sur d'autres enseignements qui sont allés très très loin, qui n'ont pas à négliger, mais qui sont allés sans doute beaucoup trop loin.
Moi, j'aime bien mon genre.
Mais évidemment, l'offensive Trump contre le savoir et la connaissance est un péché.
Et à une dimension politique. Barack Obama a salué la démarche du président d'Harvard. C'est un réveil démocrate aussi, peut-être. Ça va peut-être venir de là aussi.
Bien sûr, oui. Non, ça va devenir un bastion de la résistance démocrate. Tant mieux. Et tant mieux parce qu'il faut bien commencer à se battre. Mais sur quelle ligne ? Il faut que les démocrates réfléchissent bien, parce que si c'est sur une ligne extrême et que si c'est pour défendre ce qui a donné les racines du vote Trump, c'est pas, à mon avis, comme ça qu'ils vont reprendre le pouvoir.
Non, c'est comme le PS en France. Réfléchissons, modérons-nous, ma chère Ruth.
Bien sûr.
Alors, on va aborder un autre sujet, celui des prisons, cette grande interrogation après ces attaques sur 9 établissements pénitentiaires depuis dimanche, des tirs de Kalachnikov, des voitures incendiées, des tags à Toulon, Valence, Nanterre, Villepinte, encore d'autres signalés encore ce matin, exactement. Et une question sans réponse, qui se cache derrière ces attaques visiblement coordonnées, point d'interrogation.
Que ce soit des narcotrafiquants, comme l'affirme Gérald Darmanin, ou que ce soit l'ultra-gauche, comme certains le supposent aussi, avec un sigle et une organisation de défense des prisonniers français. Ce qui est grave, c'est le défi à l'État et le défi à l'autorité. Et donc, l'enquête le dira, le Parti national antiterroriste est saisi, s'est auto-saisi dans les heures qui ont suivi, ce qui est assez grave et assez important.
Et très rapide, oui.
Donc, il faudra voir. Mais en tout cas, c'est un défi à l'État, et ça veut dire qu'on est, alors si c'est les narcotrafiquants qui se sont coordonnés, alors là on est vraiment dans quelque chose qui ressemblerait à des cartels sud-américains, j'espère que c'est pas complètement ça, mais bon, si c'est ça, c'est extrêmement grave. Si c'est de l'ultra-gauche qui revient, je vous rappelle qu'il y a des milliers de fichiers S d'ultra-gauche dans l'ensemble des fichiers S, donc c'est aussi un danger, notamment en prévision du 1er mai, mais ce qu'il faut, c'est être extrêmement ferme face à ce défi, à ce nouveau défi.
Marc Lambron.
Oui, alors qui est derrière? Bon, il y a l'option Jean-Patrick Manchette, vous savez, les polars des années 70, auquel cas ça regarderait du côté d'une sorte d'Action Directe, ressuscité. Et puis il y a l'option Scorsese, c'est-à-dire ces films où on voit les capos mafias qui sont en prison et qui, en préparant des spaghettis, organisent à l'extérieur et continuent à diriger leur gang. Alors on voit bien que c'est la perspective de ces QHS nouvelle formule, enfin le fait d'incarcérer ensemble, notamment les narcotrafiquants sans possibilité de communication avec l'extérieur, adieu les téléphones portables, qui pourrait évidemment susciter l'ire de ces gangs. Et en même temps, c'est peut-être une étrange façon de baliser à coups de balles de Kalachnikov leur future résidence. Mais il y a d'autres façons d'aménager les prisons. Et le dernier point, c'est que, à mon avis, chaque impact de balle conforte une voix RN dans sa conviction.
Bien sûr.
Il nous reste quelques minutes, une minute à peine. Vous vouliez évoquer, Marc Lambron, Mario Vargas Llosa, qui nous a quittés le week-end dernier, 89 ans, prix Nobel de littérature en 2010, membre de l'Académie française. Vous vouliez rendre hommage aussi à votre confrère, Marc.
Oui, quelques mots pour mon confrère. Il avait été reçu en février 2023. Il est venu y siéger et puis on a appris, il y a quelques mois, que ses médecins lui interdisaient de traverser l'Atlantique, probablement pour des raisons de santé et faiblesse cardiaque sans doute, ce qui fait qu'il est décédé à Lima. Il n'aura pas revu ni Madrid ni Paris, qui étaient ses deux villes d'élection. Peut-être une chose, c'est que le dernier géant des lettres latino-américaines, comme on le dit, au fond était un écrivain d'inspiration française 19e siècle. C'est-à-dire que ces deux références, il leur a consacré des ouvrages. C'était Flaubert d'abord, Victor Hugo après. Et nonobstant l'intégration de quelques techniques plus modernes, il adorait John Dos Passos, finalement, c'est ce grand roman à la française qu'il a pratiqué tout au long de son œuvre. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui est symptomatique, c'est son évolution politique. C'est-à-dire que vers 1960, quand il est à Paris, c'est un émule de Jean-Paul Sartre. Mmh. Et puis, il est devenu un émule de Raymond Aron. Cinq visites à Cuba, notamment, dans les années 60, lui ont fait comprendre, peu à peu, prendre conscience de ce que c'était que le totalitarisme latino-américain de gauche. Et voilà, on commence avec Staline, on finit avec Revel. Et c'était un esprit en même temps libre, dégagé, un tenant du libéralisme, mais par exemple, et pour cette raison, il exécrait Trump.
Très rapidement, Ruth aussi,
j'ai vraiment observé cet itinéraire qui est tout à fait exemplaire, c'est-à-dire c'est un anti-totalitaire, c'est un libéral, un démocrate libéral qui a perdu des élections dans son pays, mais qui est évidemment amoureux des lettres et un très grand écrivain, mais qui a fait un itinéraire assez typique finalement du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il a traversé et observé les totalitarismes et s'en est dégagé et en est devenu un des critiques les plus acerbes. Et de ce point de vue-là, on lui doit beaucoup.
Esprit libre sur Radio Classique, avec nous ce matin l'éditorialiste Ruth Elkrieff, l'académicien Marc Lambron. Merci à tous les deux et très bonne fin de semaine. Dans un instant sur Radio Classique, Le Flash et Franck Ferrand, 8h56.
Retrouvez les carnets de Gauthier Capuçon du lundi au vendredi à 17h sur Radio Classique. Cette émission est disponible en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes de streaming habituelles.
Alors, where is Brian? Où est Brian? Brian in the USA? Brian était aux USA. Where is Jenny?
Ben oui, elle est où, Jenny?
Il va falloir réviser votre anglais. En ce moment, avec les essais 100% électriques Ford, tentez de gagner 5 voyages à la découverte de l'Ouest américain. Inscrivez-vous sur Ford.fr.
Tous les coups, elle est aux États-Unis. Avec Brian!
Ford. Jeu valable du 15 mars au 30 juin 2025. Règlements et conditions sur Ford.fr, gratuit sans obligation d'achat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas! Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Le festival 1001 notes célèbre 20 ans de musique et de fêtes. Vivez une édition exceptionnelle avec Nemanja Radulovic, Alexandre Tarot, Jean-François Zigel, Anne Kefelec, le duo Lucienne Renaudin-Vary, Félicien Brut et bien sûr Chloé Mézy aux commandes de l'Orchestre Symphonique 1001 notes. Et pour clôturer cette édition spéciale, Mozart, par l'immense pianiste Katia Bougnatichvili. Le festival 1001 notes à Limoges, du 15 au 19 juillet. Réservation sur festival1001notes.com.
Dans un instant, le flash de 9h et Franck Ferrand arrive.
Mais c'est votre canapé qui fait ce bruit.
Vous méritez mieux. Vous méritez un nouveau poltronnet sofa. Avec 30% de remise sur beaucoup de canapés comme en exposition.
Ah là, on entend quel est confort. Poltronnet sofa, 30 ans de qualité.
Et voilà.
30 ans de qualité, vérifiez les conditions en magasin.
La météo, bonjour Chloé Sénard.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Encore beaucoup d'averses aujourd'hui.
Oui, ce matin, les pluies vont balayer une diagonale allant des Pyrénées à l'Alsace, avec même de la neige des 2400 mètres d'altitude sur les Alpes. Des orages qui éclatent encore près de la Méditerranée sur la Côte d'Azur et en Corse. Dans l'ouest et au nord, le temps est plus calme.